m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30-19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir 2 voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Jean-François Coulon-Desart est là, journaliste et écrivain. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir à tous.
Philippe Charlez, expert en questions énergétiques. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Marc.
Il est partout.
Il est partout. C'est extraordinaire, Philippe Charlez. On l'a vu 5 fois sur les télévisions. Il fallait vraiment avoir des yeux de mouche. Et on pouvait voir Philippe Charlez sur combien? Alors, il y a eu BFM, il y a eu...
Europe 1, BFM, CNews... France 2 et Public Sénat hier.
Voilà, tout ça dans la même journée. Voilà, le recordman.
Harassant.
Le recordman de la semaine est avec nous ce soir. Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Martine est là, elle attend vos messages. Vous êtes les bienvenus au programme ce soir. Édito, pourquoi la dissolution confirmée de la jeune garde éclabousse LFI et son chef Jean-Luc Mélenchon. Notre grand dossier, ce sera « Faut-il défendre le 1er mai férié ?» Et nous en débattrons avec Joseph Touvenel, l'ancien président du syndicat CFTC, qui connaît le sujet par cœur et qui a des idées précises sur la question. En deuxième partie, nous évoquerons les Français. Les Français vont-ils s'arracher le rapport à l'oncle? Quelle suite à donner au rapport à l'oncle? Quelle réforme faut-il privatiser tout ou partie de France Télévisions? La méthode à l'oncle va-t-elle faire tache d'huile? Je rappelle que le rapport à l'oncle sera publié donc lundi. Et puis nous aurons en finale le moment que vous attendez tous, qui est notre petit clin d'œil culture, ce qu'on a vu, lu, entendu et ce qu'on vous recommande. Ou non, ou qu'on vous décommande pour la semaine dans la sphère culturelle. Mais auparavant, notre traditionnel tour d'actualité. Qu'avez-vous retenu de l'actualité de cette semaine? Et comme Philippe Charlez a l'air concentré, je m'adresse à lui. Philippe.
Bon, moi, je ne peux pas passer sur les résultats trimestriels de Total Energy et de ces super profits diaboliques. Donc, Total Energy, en une journée, est redevenu le diable français, si j'ose dire. Donc, Total Energy a effectivement augmenté ses bénéfices trimestriels, donc calculés depuis le début de l'année, de 50%. Et donc, effectivement, la gauche est montée au créneau en demandant à nouveau la taxation des super-profits, traitant Total Energy de profiteur de guerre. Je trouve que vis-à-vis du groupe et surtout quand même de ses 100 000 salariés, ça manque beaucoup de respect. Je pense à ces 100 000 salariés, enfin je ne les connais pas tous, mais j'en connais un certain nombre, qui ont dû se sentir visés dans la chair et je voulais à l'occasion leur donner tout mon support. Alors simplement d'expliquer de façon très rapide, que Total Energy fait peu de bénéfices en France.
Pourquoi est-ce que c'est aberrant? Déjà, c'est aberrant parce que une entreprise française parce qu'elle fait des bénéfices,
il faut reconnaître, et ça c'est vrai, que mécaniquement, l'augmentation du prix du baril et l'augmentation des produits raffinés, dont Total n'est pas responsable, ce que je veux dire, c'est pas Total qui a déclenché la guerre, mais disons qu'elle est un peu un bénéficiaire heureux et indirect.
Mais comme toutes les autres compagnies.
Cette...
Comme Shell, comme tout le monde.
Absolument. Et puis on pourrait faire la même chose sur d'autres produits et d'autres matières premières. On n'a pas parlé des engrais, on n'a pas parlé de l'aluminium, on n'a pas parlé de l'acier,
ouais,
qui, dont les taux ont fortement augmenté.
Qui profite aussi.
Les engrais ont augmenté de 50%, ce qui d'ailleurs est dramatique pour nos agriculteurs. Donc les sociétés qui vendent des engrais ont aussi fait des super profits. Alors pourquoi est-ce que ces super profits, en fait, n'en sont pas ? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas faits en France, mais ils sont faits dans les filiales étrangères de Total. Et dans les filiales étrangères de Total, la compagnie est fiscalisée, et parfois avec des taux de fiscalité extrêmement élevés. Je prendrai un seul exemple, c'est la Norvège, où vos bénéfices sont fiscalisés flat, donc c'est-à-dire de façon depuis le premier euro jusqu'au dernier euro, à 75% quand même. Hein.
Ah ouais.
Voilà. Et donc,
ce qui fait que...
Alors en moyenne sur l'ensemble des filiales, c'est 43%. Mais Total paye quand même dans le monde 25 milliards de dollars de taxes et d'impôts. Donc quand on dit que Total n'est pas imposé, c'est pas vrai. Donc moi je dis à ceux qui veulent imposer Total, donc Total paye évidemment ses charges et ses impôts sur ses bénéfices français, mais qui sont relativement faibles parce qu'il n'y a pas d'activité de production en France. Et donc,
Total ne fait des bénéfices en France que sur la distribution et un peu le raffinage.
Distribution et le raffinage.
C'est
ça, aujourd'hui, raffinage. Sur le raffinage, les marges de raffinage étant... Mais sur la distribution, comme Total a réduit les prix à la pompe, aujourd'hui, joue pratiquement... alors, on ne peut pas vendre à perte, mais cela étant, pratiquement, ne fait aucun bénéfice. Donc, ce qui veut dire que cette année, Total sera imposé sur des bénéfices quasi nuls, donc ne payera pratiquement pas d'impôts en France, mais on payera énormément dans ses filiales. Donc, moi, je dis, inversons un peu la situation. Imaginons, Total, par exemple, produit du pétrole au Nigeria. Imaginons une société nigérienne en France qui dirait, ben, moi, je ne paye plus d'impôts en France, je paye un impôt sur un super profit au Nigeria. Je crois que l'État français ne serait pas... pas d'accord, bien évidemment.
Tout à fait d'accord.
Ce que je veux dire, la règle générale, c'est que vous payez vos impôts dans le pays où vous avez gagné l'argent. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça se passera. Et je dirais qu'en plus, légalement, c'est impossible puisque la double fiscalité n'est absolument pas permise. Donc, je vais dire, ce sont des...
En tout cas, la publicité pour la France, terre d'accueil de l'entreprise, est quand même pas terrible.
Absolument.
Des pertes, vous mettrez la clé sous la porte. Et si vous faites des profits, l'État viendra vous les réclamer. Voilà. En gros, c'est ça.
Ben, ça se résume à ce que pense la gauche, on va
dire. Voilà, c'est ça. C'est un bon résumé de la gauche.
En tout cas, je rajouterais que j'ai fait un post qui a eu beaucoup de succès sur LinkedIn là-dessus. J'ai dû une centaine de commentaires, ils étaient tous pro-Total.
Ah, bon, ben, comme quoi...
Donc ça veut dire que les Français sont quand même intelligents.
Mais les hommes politiques et les responsables politiques, pour beaucoup, y compris certains qui ont été assez décevants, je trouve...
Marine Le Pen a particulièrement été décevante en disant qu'elle était pour la fiscalité, alors que Bardella était contre.
Ah bon ?
Bardella il l'a exprimé que lui était opposé Ce qui démontre d'ailleurs une différence de voilà, j'étais un peu long, excusez-moi.
Non, mais c'était très intéressant. Jean-François Coulon-Désart.
Eh bien, écoutez, moi, il y a un monsieur qui a retenu mon attention cette semaine, il s'appelle Kamel Daoud. Vous savez que c'est le prix Goncourt 2024 pour Ouris, où il dénonçait ce qui s'était passé pendant la dernière guerre entre barbus en Algérie. Et pour ce faire, pour ce livre, donc pour un roman, il est condamné à 3 ans de prison en Algérie, par contumace bien sûr. On lui reproche d'avoir piétiné l'article 46 de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, je cite, instauré à la fin de la guerre civile. Donc, cette charte réprime ceux qui ont l'audace d'évoquer les événements dans un sens qui contredit le récit officiel. Donc, 3 ans de prison pour cet écrivain. Et où j'ai été frappé, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'on n'a pas attendu grand monde quand même pour monter au créneau et pour défendre à la fois l'homme et l'écrivain, que ça soit aussi bien dans la sphère politique. Peut-être encore moins dans la sphère médiatique.
En tout cas, tous les pétitionnaires qu'on a entendus
sont
roulés par terre pour l'affaire
ils sont aux abonnés absents. Oui. Alors là, c'est marrant, on n'entend personne là. Ouais. Voilà. Ouais. Donc c'était ça qui a retenu, mon attention cette semaine.
Magnifique. Allez, on passe à l'édito. Hein. Pourquoi la dissolution confirmée de la Jeune Garde éclabousse LFI et son chef, Jean-Luc Mélenchon?
Le 1er mai, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs. Parce que...
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Le Conseil d'État, saisi avant le meurtre de Quentin Derenque, a donc rejeté ce 30 avril le pourvoi de la Jeune Garde. Il a confirmé sa dissolution, la dissolution de ce mouvement d'extrême-gauche ultra-violent. Une décision rare, rare pour des organisations de gauche. Depuis 2017, 24 dissolutions ont été prononcées avant celle de la Jeune Garde. Parmi elles, 19 mouvements de droite radicale et 5 seulement d'ultra-gauche. On dissout donc 4 fois moins à gauche qu'à droite, je referme la parenthèse. Pour dissoudre la Jeune Garde, le Conseil d'État a évidemment des arguments graves. Il accuse les nervis du groupuscule créé par Raphaël Arnaud de se préparer à des affrontements violents, je cite, et de chercher, je cite à nouveau, à exclure physiquement de l'espace public toutes les personnes considérées comme fascistes. Fin de citation. Le 3 avril dernier, lors de l'examen du recours, le rapporteur du Conseil d'État avait évoqué la dérive totalitaire, entre guillemets, de ce mouvement devenu, je cite encore, une milice. Le tableau judiciaire étant désormais éclairci, le temps est donc venu d'examiner les conséquences de cette décision. Car la Jeune Garde n'est pas perdue dans la nature, loin s'en faut. Sa dissolution éclabousse violemment un parti et son chef, LFI et Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce que Raphaël Arnaud est député LFI, couvé par ses membres qui l'ont accueilli chaleureusement à son retour à l'Assemblée nationale, vous vous souvenez de ces images. Parce que cette milice dissoute a imprimé son logo sur des milliers d'affiches de campagne de candidats LFI lors des dernières législatives. Parce que Raphaël Arnaud, triple fiché S devenu député LFI, a créé la Jeune Garde. Il l'a façonnée, il lui a donné sa mission, ses méthodes, ses équipes, ses objectifs. Parce que Raphaël Arnaud, député LFI, n'a jamais renié sa violence. Il lançait sur X ces mots « suprémaciste, religieux ou nationaliste, on va tous vous désinguer, vous désinguer ». Parce que deux des plus proches collaborateurs de ce député LFI sont impliqués à la fois dans la Jeune Garde qu'il a fondée et dans le meurtre sordide du jeune étudiant Quentin Derenque le 12 février dernier à Lyon. Parce qu'enfin, ce député LFI n'a jamais rien renié. Il a lancé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale un vigoureux « Vive l'antifascisme, vive la Jeune Garde !» sous les applaudissements nourris des députés LFI, ce que notait Georges Michel, vidéo à l'appui, dans un article de Boulevard Voltaire du 15 février 2026. LFI est éclaboussé enfin parce que Mélenchon a Auxerre le 30 avril 2025, alors que la Jeune Garde était déjà en cours de dissolution, évoqué, je cite, « une organisation alliée, liée au mouvement insoumis ». C'est simple, ce mouvement dissous a été couvé, promu, protégé, utilisé, défendu par le leader de LFI, Jean-Luc Mélenchon, et par ses troupes. Dès lors, des questions se posent. LFI peut-elle conserver à l'Assemblée nationale une place aux créateurs et inspirateurs d'un mouvement ultra-violent dissous ? LFI elle-même peut-elle encore siéger et parader au Palais Bourbon ? LFI peut-elle continuer à donner des leçons sur tous les sujets sans rendre de compte ? Pour LFI, le temps est venu d'affronter ses responsabilités et pour les responsables politiques, la justice et les médias, le temps est venu de demander des comptes. Voilà, est-ce que vous avez suivi cette affaire ? Comment est-ce que vous avez réagi à la dissolution de la Jeune Garde, Jean-François Coulon-Désart, par exemple ?
Eh bien, en tout cas, après ce que vous venez de dire, en 2027, si LFI arrive au pouvoir, vous serez l'un des premiers à monter à l'échafaud, mon cher. Hein.
Ça, je le crains.
Soyons très clairs, nous vous suivrons aussi, mais vous serez le premier.
Vous vous défendrez.
Bien sûr. Non, mais là c'était une émanation, vous l'avez très bien dit, de LFI. Moi, je me souviens des propos de Mélenchon où il appelait ces gens-là de la Jeune Garde « nos jeunes camarades ». Et ils étaient partout dans les meetings, ils assuraient une espèce de service d'ordre bizarroïde. Vous l'avez rappelé, il parlait d'organisation alliée, c'est Mélenchon qui parle. Oui, que Raphaël Arnaud soit fiché S, mais tout ça, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va porter plainte, il paraît que l'État va à nouveau porter plainte pour reconstitution de l'île dissoute. Oui. C'est en train de se passer.
Oui, ça, j'en ai pas parlé.
Quelle est la...
Il serait en train de se reconstituer.
Ils vont changer de nom et ça va, mmh. ça sera comme avant. Je crois que le mal est bien plus profond et bien ouais. plus.
Il y a quelques semaines, ils avaient encore leur espace X, leur compte X.
Oui, non, mais c'est hallucinant. Déjà, on n'a pas fait le ménage sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est.
Philippe Charles, oui, est-ce que Yael Braun-Pivet doit intervenir?
Alors, d'abord, je dirais que les milices d'extrême gauche, c'est une. Je l'ai déjà dit, hein, c'est. C'est vieux comme le monde, hein. Ça a été inventé par le grand Staline. Il suffit de lire le dernier livre de Stéphane Courtois, qui est absolument remarquable et qui explique que, même pas Staline, que Lénine a tout inventé de A jusqu'à Z. Et que les autres ne sont que des... D'ailleurs, il le dit que Hitler, par exemple, n'est vraiment qu'un médiocre copieur, mais c'est Staline qui a tout inventé. Et donc, les milices existent à peu près depuis... On peut même remonter, hein, les sans-culottes étaient une forme de milice sous la Révolution française. Alors, quant à dire... Faut-il dissoudre LFI ? Moi, je ne pense pas. Je pense que LFI, dans l'anonymat et dans la clandestinité, serait encore beaucoup plus dangereux qu'existant officiellement. Donc, moi, je ne suis absolument pas partisan de les mettre au... Alors oui, la milice, bien sûr, parce que, notamment après le meurtre du pauvre Quentin, on le sait. Mais je pense que l'extrême-gauche doit pouvoir se présenter devant les citoyens. Et s'il a des représentants... Bon, alors, il faut les condamner... juridiquement quand ils dépassent les bornes, bien évidemment, ce qu'on ne fait pas toujours, mais par contre je ne suis pas contre la non-existence et la clandestinité d'un groupe politique. Il est beaucoup plus dangereux quand il n'existe que dans la clandestinité que s'il existe de façon ouverte, mais c'est mon point de vue.
Oui, oui, mais je suis assez d'accord avec vous. J'ai d'ailleurs pas parlé de dissolution.
C'est ce que j'avais compris.
Non, mais je trouve que on doit leur demander des comptes. C'est ça que j'ai
alors
dit.
Leur demander des comptes.
Doit leur demander des comptes.
Comme à tous. Et quand ils dérivent,
comme à tous,
ils doivent.
Là, en l'occurrence, ils ont soutenu un mouvement qui finit par être interdit tellement il est dangereux.
Oui, ça on est d'accord.
Mais on se place où sur sur la morale, sur le droit, on leur demande des comptes sur à quel niveau?
Sur le droit. Hein.
Sur le droit.
À partir du moment où vous agissez, que vous cassez tout, que vous intégrez des black blocs, on les a vus aussi dans des mouvements écologistes affronter les forces de l'ordre, etc. C'est là-dessus qu'il faut les attaquer. Non, pas sur le plan moral du tout. Alors là,
mais est-ce que juridiquement, on a les outils pour ça ou pas?
Bah oui, la preuve, c'est que ça a quand même été dissous.
Le gouvernement.
La dissolution est bien une décision juridique,
politique,
du Conseil d'État. Une décision morale.
Oui, tout à fait. On n'en a pas fini, mais si vous voulez, ils sont très forts parce que regardez un peu le temps d'antenne que cela prend. Ça fait une publicité à LFI comme s'ils en avaient besoin. Cela dit, mon politique a toujours besoin de publicité, mais absolument incroyable.
Oui, enfin, ce sont souvent les médias de droite qui en parlent beaucoup. Et qui leur en font la publicité. Hein.
Ah, les médias de gauche, évidemment, ils les caressent dans le sens du poil.
Oui.
Que ce soit dans Libération
c'est là qu'on voit quand même encore.
Intéressant de voir ce qu'a dit le Monde là-dessus sur sa dissolution et Libération. Ça serait pas mal ça.
Ouais, j'ai pas vu, mais la prégnance de la gauche, on le voit, on la sent là-dessus, sur des sujets comme ça. On voit bien que ça n'a aucun retentissement, personne n'accuse les filles, il n'y a pas de rebondissement. Vous pensez bien que si c'était un mouvement d'ultra-droite qui avait les mêmes liens avec
partout,
le Rassemblement National, on en aurait. Partout.
Matin,
partout,
midi et soir.
Partout.
Mais Marc, aujourd'hui...
Les kiosques seraient tapissés pour 6 mois, là.
Aujourd'hui, les socialistes ne sont qu'une Jeanne Garde en cravate.
Oui. Oh, quel joli mot.
Ils vont quand même pas aussi loin dans le...
Ah, dans la pensée,
Oui, mais enfin, là, il n'y a pas que de la pensée.
Non, là, il y a de la violence, c'est tout à fait différent.
Il y a même assez peu de pensée, pour être tout à fait franc.
Oui.
Il y a surtout des actes. Allez, à venir, nous allons... parler de ces Français, nous nous demanderons si les Français s'arracheront le rapport à l'oncle qui va paraître lundi. Et puis nous aurons notre clin d'œil culture, mais auparavant, faut-il défendre le 1er mai férié ?
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlez et Jean-François Coulon-Désart, la France doit-elle travailler le 1er mai ? Doit-elle laisser
la liberté de travailler les jours fériés. Ce faisant, ne brise-t-on pas notre culture et notre spécificité avec cette question qui n'est pas nouvelle? Convenons-en. On plonge directement dans l'art français du débat de principes à conséquences économiques. La gauche s'arc-boute sur ses avantages acquis. La CGT défile d'ailleurs aujourd'hui même à Paris et ailleurs pour défendre ce jour férié et chômé. La droite réclame des libertés et dénonce l'aveuglement économique de la gauche. Le Rassemblement national donne l'impression de naviguer un peu à vue sur ces sujets pour éviter les coups. Et au-dessus de cette empoignade bien gauloise se dégage la figure sympathique et barbue de notre ami Joseph Touvenel. Bonjour Joseph.
Bonjour Marc.
Vous êtes l'ancien vice-président du syndicat CFTC, la Confédération des travailleurs chrétiens. Vous êtes aujourd'hui le vice-président du Centre européen des travailleurs qui regroupe 70 organisations dans 30 pays d'Europe. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise.
Non, c'est tout à fait exact.
C'est exact. Vous avez dirigé le magazine Capital Social et tout ceci fait de vous un expert consulté dans beaucoup de médias sur ces questions au croisement du social, de l'économie et de l'identité de la France, de la gauche ou de la droite. Alors justement, cher Joseph Touvenel, pendant que la CGT défile dans nos rues, à Paris et ailleurs, vous signez une tribune dans le journal du dimanche. Je donne son titre, « Travail le 1er mai, la droite la plus bête du monde ». Et vous y expliquez que le 1er mai reste un marqueur puissant de l'histoire de France. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par l'histoire vous rappeler l'événement qui était à l'origine de la fête du travail en France. C'est un événement oublié, qui est la fusillade de Fourmies. Alors, oui. Que s'est-il passé à Fourmies, qui est une petite ville du Nord, en 1891
Joseph Touvenel. Je vais remonter un peu avant.
Alors, remontons
encore.
Je vais remonter en
1791 avec la loi Le Chapelier, qui a supprimé toutes les protections que pouvait avoir le monde du travail.
Absolument.
Et donc,
vous
la
avez
grande
raison.
Misère du 19e siècle, et notamment du monde ouvrier, avec le développement de l'industrie. Mmh. Nous avons des gens qui travaillent dans le Nord.
On l'oublie beaucoup, il faut insister sur cette loi Le Chapelier.
C'est l'œuvre de la Révolution française.
C'est l'œuvre de la Révolution française de jeter les ouvriers dans le...
De supprimer, d'interdire toute protection en faisant
un
délit de coalition. Que si on
donc vous entendez que sous l'Ancien Régime, il y avait davantage de protection qu'après la loi Le Chapelier.
Ben c'est évident.
Oui. Absolument. C'est
vous êtes allé à l'école, vous devez le savoir. et donc, que se passe-t-il à Fourmies? Alors, il y a eu des événements aussi aux États-Unis, parce que le monde ouvrier est quand même très très maltraité à cette époque-là. Fourmies, il y a une manifestation qui au départ est pacifiste, c'est une petite ville du Nord, ville ouvrière avec beaucoup de textiles. Les ouvriers du textile, c'est de 12 à 15 heures de travail par jour dans des conditions très difficiles. Ils défilent et ils réclament la journée de 8 heures. Ils reprennent d'ailleurs le slogan d'un dangereux gauchiste qui s'appelle le comte Demain, Albert Demain, qui s'était battu pour la journée de 8 heures, et qui a fini par l'obtenir d'ailleurs. On oublie souvent que nos grandes conquêtes sociales sont des conquêtes sociales chrétiennes, et non pas du tout des conquêtes marxistes.
Montalembert, Albert Demain.
Absolument.
Ouais,
et donc Albert Demain s'est beaucoup battu pour que la durée du travail devienne raisonnable. Donc il y a une manifestation à la fin des échauffourées, à la fin de la journée. La troupe tire. Alors la troupe tire pourquoi? La troupe tire parce qu'il y a un officier qui s'est affolé devant la foule. Il donne l'ordre de tirer. En plus, c'est les nouveaux fusils, les fusils Lebel, qui sont bien plus performants que les anciens Chassepot. Et donc il y a 9 morts, dont 2 enfants, plus de 45 blessés. Et il y a un homme qui est là, qui n'est pas qu'un homme, c'est le curé de la paroisse, parce que ça s'est passé devant l'église de Fourmies. Et ce brave prêtre, Alfred Margerin, qui devrait avoir une statue, on devrait défiler le 1er mai devant sa statue, il s'engage entre la troupe et les manifestants. Et celui qui en parle peut-être le mieux, c'est le gendre de Karl Marx, franc-maçon, membre des mouvements communistes internationaux, qui écrit ce jour-là, si le curé n'était pas sorti, donc c'est Paul Lafargue dont je parle, n'était pas sorti, la boucherie, je le cite, la boucherie aurait duré encore longtemps. Et moi, je m'étonne que du côté de ceux qui sont de droite, qui se disent attachés au roman national et au retour de mon national, qui nous disent le Puy du Fou, c'est très bien, et ils ont raison. Quand il s'agit de la classe ouvrière, il n'y a plus personne. C'est démission. La droite la plus bête du monde. Ensuite, ils vont pleurer.
Mais s'il y a encore des ouvriers en France.
Les marxistes, Je parle des travailleurs, de tous les travailleurs. Les marxistes nous ont piqué l'histoire sociale, mais les amis, vous leur avez donné
le terme
de travailleur.
Non, mais c'est pour ça que,
le travailleur est intéressant. Un travailleur, c'est qui ? Un travailleur, c'est un salarié, c'est un patron, c'est un indépendant, c'est une profession libérale, c'est un militaire. Tous sont des travailleurs. Il faut le rappeler.
Joseph Tounel, vous sembliez considérer que tout le monde connaît l'histoire de la loi Le Chapelier. Personne ne la connaît. Personne ne connaît cette histoire.
La droite n'a jamais été au pouvoir. La droite ne s'est jamais occupée de l'éducation nationale.
Non, personne ne sait que la loi Le Chapelier d'essence révolutionnaire a supprimé les droits des salariés, les a jetés dans cette... Et pour cause, parce que l'ultra-gauche se revendique en permanence de la Révolution française.
La droite Le Chapelier, elle est d'essence révolutionnaire, mais elle est surtout une loi ultra-libérale. Le brave Le Chapelier... Brave bourgeois de son état, j'ai rien contre les bourgeois, moi je suis issu de la bourgeoisie, personne n'est responsable du milieu où il naît. Brave bourgeois de son état a beaucoup lu Jean-Jacques Rousseau. Et notamment, il a lu tout ce qui était sur la liberté contractuelle. Et il s'est trouvé que c'était une très bonne idée. Alors, il a fait passer un texte qui était « Citoyens, vous êtes maintenant tous libres, il y a eu la révolution. C'est la liberté contractuelle. Et donc, vous pouvez signer ou pas signer un contrat. » Dans le monde du travail, entre celui... Donc c'est ultra-libéral. La liberté, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de signer ou pas. Sauf que dans le monde du travail, entre celui qui peut donner du travail et celui qui a besoin de travailler pour vivre et faire vivre les siens, si on laisse sans règles, eh bien c'est ce qui s'est passé au 19e siècle.
C'est ce que disait...
C'est celui qui peut donner du travail ou pas, qui peut tout imposer à l'autre. C'est exactement
c'est
une
ce
loi
que disait
ultra-libérale.
Kain, le renard libre dans le poulailler libre.
Absolument. Hein
voilà.
Mais attends, à l'époque, quand même, la France était paysanne à quoi ? À 92%. Ça change au 19e siècle, où les usines arrivent, où l'industrialisation arrive, le chemin de fer, etc. Donc ça, le rapport de force change. Là
ça
aussi.
S'aggrave au 19e siècle. Ouais. Mais même, enfin, on avait, nous sommes à Paris, les corps de métier étaient organisés. Les couvreurs, les charpentiers avaient des caisses de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'un couvreur qui tombait du toit, sa famille était prise en charge par
sous
la corporation.
Sous l'ancien régime.
Oui, bien sûr. Oui, avant la loi Le Chapelier. Il y avait...
Non, mais Philippe a raison de poser la question, parce que c'est inconnu.
Vous voyez, par exemple, les jours de grandes fêtes. Normalement, les magasins étaient fermés. Mais on autorisait... On autorisait un certain nombre à ouvrir. Notamment ceux qui faisaient des bijoux, etc. La corporation s'organisait et en laissait ouvert un certain nombre. La différence... C'est que ces jours de grandes fêtes religieuses où cela ouvrait, l'ensemble de leurs bénéfices était mis dans une caisse pour les pauvres. Et à Paris, ça donnait l'occasion de faire un grand repas pour les pauvres à l'Hôtel Dieu. Toutes les grandes surfaces qui ouvrent le 14 juillet, les jours, toutes nos grandes fêtes, leurs bénéfices soient mis dans une caisse pour les pauvres.
Oui, ce serait assez extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout cet épisode, mais c'est vrai qu'on connaît très mal la monarchie.
Sur l'histoire du 1er mai,
les aspects sociaux ont été caricaturés.
Il faut reprendre notre histoire sociale pour mettre la vérité. Et la vérité de notre histoire sociale, c'est que la gauche, évidemment, des gens de gauche ont fait des choses.
Mais Joseph Tounel, il faut que vous nous écriviez l'histoire sociale.
Mais ça m'arrive. J'ai écrit il y a quelque temps un article sur le père de la sécurité sociale qu'on nous vend comme étant le communiste Croizat, pour démontrer que c'était absolument pas le communiste Croizat, qu'au contraire, il y avait une émission sur France Inter totalement mensongère, puisqu'on nous le présentait comme communiste, c'est vrai. Ouvrier à l'origine, c'est vrai. Résistant et déporté, ce qui est complètement faux. Il a soutenu le pacte germano-soviétique, il s'est fait arrêter pour ça, il s'est fait condamner à la prison et déchu de ses droits civiques par la République. Il est sorti, il a fait plusieurs prisons, il a terminé en prison en Algérie. Il est sorti de prison plusieurs mois après la libération de l'Algérie par les troupes alliées, notamment américaines. Comme résistant et déporté, on fait mieux. Et sur la loi sur la sécurité sociale, c'est facile de vérifier que ce n'est pas le père, puisque les décrets et les textes sont sortis avant qu'il soit ministre. Le vrai père des sécurités sociales, c'est quelqu'un qui était un radical modéré, qui avait travaillé sur le sujet avant-guerre, qui a été d'ailleurs dans un des premiers cabinets à Vichy, du gouvernement de Vichy. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que comme il était juif, il s'appelle Larocque, comme il était juif, il est parti, il est allé à Lyon, où il est tout de suite rentré dans un réseau de résistance, c'est le réseau Courma, qui est un réseau de droite. Ensuite, il est passé à Londres, Il est rentré avec le général de Gaulle, et juste après-guerre, prenant les décisions du Conseil national de la Résistance, donc je rappelle que celui qui a succédé à Jean Moulin était un militant de la Confédération française des travailleurs chrétiens, il a mis en place... Il a fait les textes et il a mis en place...
Qui s'appelait
les... Son nom m'échappe, ça me reviendra. Mais vous le trouvez facilement, le successeur de Jean Moulin, ça m'en reviendra, qui était un militant de la CFTC. Bon,
mais Joseph Touvenel, donc, question...
Et donc, ce n'est pas les communistes qui ont mis en place la sécurité sociale en France. Quand le ministre communiste a été nommé, les textes étaient publiés.
Bon, elle a été mise en place, d'ailleurs, même bien avant la sécurité sociale, entre guillemets. Puisque, en fait, qui a mis en place la sécurité sociale ? Ce sont les grandes familles françaises qui, lorsque leurs domestiques vieillissaient, on leur donnait un arpent de terre, une maison, et on leur donnait une retraite, des sous, je veux dire. C'est comme ça. Alors, c'était certes à petite échelle, c'était pas pour les...
Oui, c'était pas l'échelle.
C'était pas l'échelle, mais ça a été inventé comme ça, je veux dire. On n'a pas laissé les gens qui ont travaillé 50 ans avec on les fout pas dehors comme ça, en tout cas à l'époque.
Ça a été inventé, en fait, par la société chrétienne depuis le Moyen-Âge.
Absolument, ouais.
Absolument. Non, mais moi j'attends le livre sur la vraie histoire sociale de la France, débarrasser des mensonges communistes et socialistes, qui de fait en ont fait leur fromage depuis très longtemps.
Mais c'est la faute de la droite qu'elle laissait faire,
Bien sûr, mais ça.
Qui s'est pas intéressé à la culture, qui s'est pas intéressé à l'histoire et qui ensuite.
Non, ils se sont intéressés, mais ils ont laissé le champ libre.
Ils ont laissé le champ libre.
C'est pas pareil.
Absolument, vous avez raison.
Bon, alors. Est-ce que, Joseph Touvenel, il faut donc pas y toucher à ce jour, d'après vous ?
Attendez. Nous avons un jour férié qui est même chômé depuis 1947.
Ah oui ?
Très bien.
J'ai entendu toutes les dates, d'ailleurs. 47, 36, je sais pas quoi.
Le 1er mai, la fête du 1er mai, fête du travail, a été instituée sous le régime du maréchal Pétain. Et le fait que ce soit chômé, c'est 1947.
Ah, d'accord, c'est ça. Ah oui.
Donc ça n'est pas juste après l'événement dans le Nord que le 1er mai a été... Donc il n'y a pas eu une symbolique de ce...
Il y a la symbolique parce que du côté...
Mais ça a été repris
du côté
pour
des
justifier...
mouvements ouvriers, ça a toujours été célébré. Et puis c'est dans le monde entier, ça s'est développé. C'est-à-dire qu'à partir des événements qui avaient eu lieu aux États-Unis, où il y avait eu des manifestations aussi ouvrières... où la police a tiré, où ils ont pris des responsables syndicaux qui n'étaient même pas sur le terrain et ils les ont pendus. Ça marque l'histoire ouvrière. C'est pour ça ce que je reproche à la droite, c'est de ne pas voir cette réalité et laisser les marxistes s'en emparer.
Joseph, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il faut laisser ce jour ?
Alors, bien sûr, parce que en plus je suis catholique. Et c'est la Saint-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le jour de la Saint-Joseph, artisan, patron des travailleurs. C'est le pape Pie XII qui l'a mis en place.
Absolument.
Ensuite, il y a évidemment une gamme d'exceptions. Nos services publics fonctionnent, vous l'avez remarqué. Vous travaillez aujourd'hui. On a toutes les exceptions.
C'est pas un travail pour nous. On est là par plaisir.
J'entends en boucle, oui, mais les boulangers et les fleuristes ne peuvent pas ouvrir. D'abord, c'est faux. Quand je suis artisan boulanger ou fleuriste, j'ai le droit d'ouvrir.
Tout seul.
Et de faire travailler des membres de ma famille.
Ouais, bon.
Et la famille, ça peut être très large.
Donc,
Donc
vous êtes d'accord avec des exceptions, quoi.
Mais justement, et après, regardons tranquillement. Ça fait des années que ça se passait bien. Personne ne disait rien. Et puis, il y a deux inspecteurs du travail qui ont déboulé en Vendée, qui ont mis des PV. Je note que ces PV ont été mis en 2024 et que le tribunal, en 2025, a blanchi les boulangers en question. Hein. Donc, ils n'ont rien payé. Mais
alors,
laissons les professions
les avocats
dans ces cas-là s'organiser.
Ouais.
C'est-à-dire, laissons la profession des boulangers s'organiser.
Alors,
pour mettre
Joseph Touvenel, vous allez voir, on va passer quelqu'un, je vous demanderai ensuite si vous êtes d'accord avec lui juste après ce petit espace.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlaise, Jean-François Coulon-Desarts et Joseph Touvenel, qui est notre grand invité, ancien vice-président de la CFDT.
CFTC, pardon.
Bien sûr, de la CFTC. Je voulais vous demander si vous étiez d'accord avec la personne que nous allons entendre. Il s'appelle Thomas Porte. C'est un député LFI. On l'écoute.
Le 1er mai, c'est la fête des travailleuses et des travailleurs, parce que on l'oublie souvent quand même dans le débat public. J'ai entendu Bruno Retailleau, mais pas que, Sébastien Chenu, dire la fête du travail, c'est pas la fête du travail. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, le 1er mai, c'est ancien, c'est 1800. 86. Mm-hmm. C'est des ouvriers aux États-Unis qui se mobilisent pour la défense et pour gagner une journée de travail de 8 heures. Et c'est 5 ans après, en France, en 1891, à Fourmies, où il y a des mobilisations qui se terminent dans le sang, puisqu'il y a 9 ouvriers qui sont morts sous les balles de la répression d'État, notamment une jeune fille qui s'appelait Marie Blondeau, qui avait 18 ans, qui a été abattue simplement parce qu'elle portait un bouquet de fleurs pour demander une journée de travail de 8 heures. Donc, il faut aussi remettre ça dans le contexte, c'est pas la fête du travail, c'est pas la célébration de la valeur travail, non. C'est la fête des revendications des travailleuses et des travailleurs. C'est un jour qui est extrêmement important pour la classe ouvrière, donc c'est important de se mobiliser aujourd'hui.
Donc vous êtes à peu près d'accord avec LFI, si je comprends bien, Joseph Touvenel.
Absolument pas, parce que...
pour le maintien de, cette, de ce 1er mai.
Non mais c'est très intéressant, quand il parle travail, on ne parle
pas
de la même chose.
Évidemment.
Je suis très attaché à la valeur travail. Visiblement, ce n'est pas la même. Qu'est-ce que c'est que
Pourquoi
le travail? Travailler, c'est participer au bien commun. Par mon travail, je me grandis. Je suis d'ailleurs co-créateur. C'est-à-dire que pour un chrétien, je suis co-créateur, je suis quasiment à l'image de Dieu.
Oui,
c'est-à-dire que dans les travailleurs, la mère de famille...
C'est la pensée chrétienne du travail. Hein,
la mère de famille qui élève ses enfants travaille. Bah je
oui,
ne suis
ça,
pas sûr que ça soit la notion de LFI. Et donc pour moi, un travailleur, c'est évidemment un ouvrier, un salarié, mais c'est aussi un chef d'entreprise, un patron, un indépendant. C'est toutes ces personnes travaillent. Et c'est cette notion de travail qu'il faut faire revenir.
Oui,
qu'il
mais...
faut remettre au centre. Après, on a des questions... qui sont des questions quand même relativement résiduelles sur le commerce. Et là, je dis, cadrons, c'est toujours un jour férié chômé, il y a des exceptions. Eh bien, laissons les branches professionnelles s'organiser.
Elles donc le principe, c'est pas de travail, mais il y a des exceptions.
Évidemment.
Jean-François Coulon des Arts.
Oui, non, mais je rebondis sur le mot travail que vous employez, et je trouve ça, depuis des décennies, extrêmement irritant que la gauche ait préempté le mot, en fait, et que le travail soit forcément une aliénation de l'homme vis-à-vis du patron. Je trouve ça absolument odieux. Il y a des gens qui aiment travailler. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce qu'ils font. Il faut arrêter avec cette espèce de tropisme gauchiste, si vous voulez, où le travail est une aliénation, une exploitation de l'homme par l'homme. Donc vous connaissez
et
la fameuse définition.
Absolue, ouais.
Voilà, absolument. Tout ça s'est passé, c'est fini, c'est terminé tout ça, c'est derrière nous. Donc je supporte mal que la gauche ait préempté ce mot avec des trémolos dans la voix, travailleurs, travailleuses. Non mais tout ça est un confine maintenant grotesque vu la situation du pays, parce que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte dans la façon dont on définit le travail aujourd'hui. Avec 3600 milliards de dettes, avec chaque enfant français qui naît, sur chaque français une dette de 75 000 euros, il va falloir rembourser un jour. Donc pour ça il faut travailler, il faut créer de la richesse. Et tous les gens ne sont pas, tous les patrons ne sont pas des oppresseurs, loin de là. Les entrepreneurs ne sont pas, etc., etc. J'en ai assez de cette chasse, ça revient à ce que disait Philippe tout à l'heure, cette chasse au super profit, mais tant mieux que Total soit un groupe absolument admirable et rayonne, c'est aussi la France qui rayonne à travers Total dans le monde entier, mais tant mieux.
Philippe Charles,
je vais mettre en colère ça quand tu dis.
Mais oui, c'est bien, les colères de Jean-François Coulon des Arts.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais les jeunes aujourd'hui ne sont pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Moi, les jeunes que je peux pratiquer, j'ai une fille qui a 35 ans, et je dois dire qu'il y a un malaise des jeunes vis-à-vis du travail, avec notamment une insuffisance des salaires et une difficulté à vivre, en considérant justement que, et ça n'est pas, je suis tout à fait d'accord avec vous, que de la faute des patrons, mais c'est que finalement, le travail ne paye plus. Et donc là, il y a réellement un sentiment chez les jeunes que le travail ne paye plus. Et ça n'était pas, et c'est vrai, le cas de mon époque. Le travail permettait, à mon époque, c'est-à-dire dans les années, à partir quand moi j'avais 35 ans, donc c'est-à-dire dans les années 1990, permettait, quand vous aviez notamment un diplôme supérieur, de vivre beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Avec... un point essentiel, à mon avis, dont on ne discute jamais, c'est le coût du logement.
Non, mais le chômage de masse des années Mitterrand, juste une petite phrase, vous rebondirez, j'espère, là-dessus. Le chômage de masse des années Mitterrand, finalement, le grand pacte qui a été passé, c'est on va tout faire pour embaucher des gens, mais on ne touche plus au salaire. parce que là, on ne pourra pas, sinon. Oh. Et voilà, voilà ce que ça nous donne aujourd'hui. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai que les salaires en France ne sont pas du tout au niveau où ils devraient être. D'où les difficultés, etc.
Donc, Joseph, tu nous as les salaires et le malaise des jeunes, Philippe a tout à fait
avant
raison.
Avant les salaires, il faut avoir conscience. Quand on nous dit, j'ai vu des statistiques qui sont totalement viciées, on nous dit qu'en fait, les Français travaillent peu. Si je prends l'ensemble de la population française, oui. Si je prends ceux qui travaillent, non. C'est-à-dire que l'enjeu crucial aujourd'hui, c'est de mettre au boulot les 5 millions de personnes qui sont inscrites à France Travail, ex-Pôle emploi. Ça me semble être une priorité. Alors, il y a ceux qui ne trouvent pas de travail réellement. Je pense à des plus de 50 ans ou aux jeunes qui ont beaucoup de mal à trouver du travail. Et il y a ceux qui ne veulent pas travailler. Et ben alors, il faut y aller. Et là, on retrouve du grain à moudre. La deuxième chose sur les jeunes. Ben, les jeunes, ils ont compris, ça fait des années qu'on leur a raconté que le but dans la vie, le but de la société, le but des entreprises et du système économique, c'était d'avoir le meilleur rendement. C'est quoi le meilleur rendement ? C'est quand j'en donne un minimum pour en tirer un maximum. Eh bien, ils ont compris qu'eux, puisqu'il n'y a plus la nation, parce qu'il n'y a plus ce sentiment collectif, puisque la France n'existe plus, eux sont une petite entreprise. Alors, leur but dans la vie de petite entreprise, personnelle,
c'est faire du profit.
Eh bien, c'est d'avoir le meilleur rendement. J'essaye d'en tirer le plus en faisant le moins. C'est mortel pour une société, mais on nous a vendu pendant des décennies Bernard Tapie. C'était ça l'exemple. Et je ne suis pas contre les bénéfices, je pense que les bénéfices, c'est absolument indispensable dans une entreprise, dans une société. Et aujourd'hui, regardez bien ce qui se passe quand on parle des salaires. Mais aujourd'hui, on a le petit coup d'État de la Commission européenne avec l'accord du Mercosur qui rentre en vigueur à titre provisoire. Parce que la démocratie, on s'en moque totalement, on nous en parle, mais on s'en moque. Le Parlement européen a dit non, mais à titre provisoire, ça rentre.
C'est du provisoire qui va durer, ça.
Salaire minimum au Brésil, c'est 277 euros par mois.
Ouais, dramatique. C'est dramatique.
Cette concurrence-là, qui est une concurrence totalement déloyale en matière, alors salariale, mais en matière sociale, en matière environnementale, en matière fiscale. Tant qu'on l'acceptera...
Est-ce qu'ils travaillent le 1er mai au Brésil ? On ne sait pas. Mais bon, peut-être.
Normalement, c'est un jour férié, mais je ne suis pas persuadé que dans la campagne,
Philippe Charlazon.
Non, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a justement entre la situation brésilienne que vous décrivez et la situation française je vais dire un juste milieu,
un juste milieu
à trouver.
Évidemment.
C'est-à-dire que globalement, entre un système... D'ailleurs, que je reviens souvent, que décrit très bien Jérôme Fourquet dans un article qu'il avait écrit l'an dernier, qu'il appelle l'étato-consumérisme, donc c'est-à-dire on ne produit plus. Hein, dans les années 60, on consommait ce qu'on produisait. Aujourd'hui, on consomme ce qu'on importe et c'est en partie financé par l'argent public.
Et par l'endettement.
Comment ?
Et pas donc par l'endettement.
Et donc et par l'endettement, bien évidemment. Et ça peut pas continuer comme ça. Donc c'est-à-dire que l'exemple brésilien est peut-être pas un exemple, mais l'exemple français qu'on porte toujours au pinacle, à mon avis, n'est plus un exemple non plus à suivre.
Non, mais est-ce qu'il est normal, Philippe, que nos chênes, nos magnifiques forêts de chênes, vous savez qu'il y a une pénurie de chênes dans le monde entier, parce que pour faire pousser un chêne, il faut 100 ans pour avoir des chênes, la forêt troncée, etc. Alors, les chênes, on les coupe, les Chinois les achètent, ils les transforment, et nous les renvoient, et on repaye 5 fois plus. On ne sait pas transformer les chênes en France.
Non, mais c'est ça
qu'on a su refaire la charpente de Notre-Dame d'une façon admirable.
C'est ce que j'appelle l'étato-consumérisme.
Nos petites scieries ferment par dizaines, par centaines.
Allez, le nombre de faillites actuellement est effrayant.
Je voulais quand même qu'on écoute notre amie Sophie Binet, c'est la patronne de la CGT.
C'est pas mon amie.
La mère, les amis de vous. Je vous les laisse.
Voilà. Elle dit qu'il ne faut pas que le 1er mai devienne un dimanche comme les autres. On l'écoute et on en parle.
Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il tienne la parole qu'il a donnée aux organisations syndicales lundi. Le 1er mai doit rester un jour exceptionnel, férié, chômé et rémunéré. Pas question d'ouvrir tous azimuts.
Sans exception, donc
aujourd'hui, les boulangers artisanaux peuvent déjà ouvrir. C'est la raison pour laquelle la situation actuelle est un non-sens. Ça fait 80 ans depuis 1947 que la loi est rédigée comme ça et qu'elle ne pose pas problème. Ce qui intrigue aujourd'hui pour ouvrir, ce sont les boulangeries industrielles, c'est la grande distribution. La proposition de loi de Gabriel Attal, c'est la pire attaque contre le 1er mai depuis que le 1er mai existe, parce que son objectif, c'est de permettre des ouvertures tous azimuts, dans l'industrie agroalimentaire, dans la grande distribution, dans les jardineries, etc. etc. Vous dites...
Est-ce que le 1er mai, Joseph Touvenel, c'est le 1er mai férié, est-ce que c'est l'apanage des grands industriels, ce sont eux qui serrent la vis et qui profiteraient d'un 1er mai travaillé?
Non mais ça j'en sais rien, mais c'est effectivement les mêmes courants et les mêmes forces qui ont fait l'autorisation d'ouvrir les grandes surfaces le dimanche, ce qui est absolument un non-sens, c'est un non-sens social et un non-sens économique. Alors, un non-sens économique, pourquoi ?
Non, mais justement, Sophie Binet, elle s'élève contre ça.
Et là-dessus, elle n'a pas tort. De faire la différence entre les boulangeries industrielles et l'artisan boulanger. Mais mettons les choses en ordre. L'artisan boulanger, s'il choisit d'ouvrir, peut ouvrir. S'il choisit d'avoir ses salariés, un, deux ou trois, il peut le faire. Et puis, les boulangeries industrielles, c'est facile à repérer, savoir ce que c'est une industrie, c'est pas un artisan.
Oui, et puis le pain n'est pas bon.
Elles sont fermées. C'est simple. Mais nos pouvoirs publics, vous avez vu comment Emmanuel Macron, en janvier, avec de mal propos, il allait le régler, le problème du 1er mai. C'était fait, et depuis, un jour on doit ouvrir, un jour on peut pas. Enfin, ouais. Ces gens-là ne savent en plus pas gouverner. Non seulement ils nous ruinent, mais en plus ils savent pas gouverner. Et il faut faire la différence. Confions au monde de l'artisanat, et quand je dis le monde des artisanats, c'est à la fois les patrons et les salariés et leurs représentants, le soin de s'organiser ce jour-là. Et ils le feront comme ils le font pour les retraites. Est-ce que vous avez noté que...
Les régimes de retraite sont bénéficiaires.
On nous dit que les retraites, il y a un gros problème, sauf que ce qui est géré par les syndicats patronaux et les syndicats de salariés...
La GIRARCO.
C'est la GIRARCO, c'est obligatoire pour tous les salariés
privés. C'est les seuls qui fonctionnent.
Il y a 91 milliards de réserves.
De guerre.
0,2.
Ah oui.
C'était encore cette année avec
91 milliards de réserves. Oui. Ça
pourquoi
paraît
91
prodigieux.
Milliards de réserves
qu'on voulait saisir d'ailleurs.
Que l'État essaie. Pourquoi
ils ont essayé aussi pour la caisse des notaires de saisir, parce que ça marche très bien la caisse des notaires.
Pourquoi ces réserves? Notre réflexion, c'est de dire que s'il y a une crise économique grave, qui peut durer quelques mois, nous, le privé géré par les méchants patrons et les méchants syndicats,
6 mois d'avance.
On pourra verser les retraites. Parce qu'il n'y a pas un endettement depuis que ce système existe, pas un emprunt, pas un endettement. Et vous voyez les réserves qu'on a, et ça a dégagé un excédent d'un milliard d'euros de mémoire en 2025. Ça veut dire que quand on nous laisse notre champ de responsabilité, réellement, alors, il y a ceux qui disent toujours non, bon voilà, dans le monde syndical, très bien, mais on est capable de construire et on est beaucoup plus efficient, visiblement, que l'État.
Mais sur les syndicats, j'ai une question à vous poser, Joseph Touvenel, sur les syndicats, en France, si mes chiffres sont exacts, sur les salariés, quoi, sur les gens qui travaillent, les travailleurs, 6% de gens syndiqués. En France, très peu de syndicalistes, on est d'accord par rapport à l'Allemagne, si on prend, etc. Sur ces 6%, la CGT ont perdu... c'est plus le premier syndicat de France depuis quelques années maintenant, c'est la CFTC.
C'est la CFDT.
CFDT, c'est compliqué. CFDT, voilà. Donc ça fait combien de milliers de personnes finalement?
Alors,
ça fait peu.
Je vais reprendre parce que là, vous confondez comme beaucoup deux choses. Le nombre d'adhérents et le poids des organisations.
Oui.
Le nombre d'adhérents en France, c'est... 6, 7%, 8% peut-être.
C'est rien.
Et avec une surreprésentation dans tout ce qui est public par rapport au privé. Si, par contre, le classement que vous avez indiqué, c'est un classement qui est tiré des élections.
Oui, oui.
C'est-à-dire
oui.
que pendant 4 ans, les gens votent dans les entreprises, celles où il y a des listes qui se présentent, dans les plus petites, il n'y a personne, etc. Et au bout de 4 ans, on regarde... Et effectivement, la CFDT est passée devant la CGT, mais elle n'est pas passée devant parce qu'elle a fait de meilleurs résultats. En fait, elle a moins baissé que la CGT. C'est
parce que non, oui, mais la CGT a perdu son bastion, la SNCF, si je ne dis pas de bêtises.
Il y a Sud aussi, voilà, il y a l'extrême gauche, mais il y a des bastions comme ça. Mais en fait, quand on regarde, les participations aux élections dans les entreprises ne sont pas mauvaises. Et si on veut, alors si on regarde, quand on nous dit oui, les syndicats, vous ne pesez rien. Je dis, alors si c'est un homme politique qui me dit ça, mais si vous me parlez des adhérents, on a beaucoup plus d'adhérents que les partis politiques et l'adhésion coûte plus cher. Les comparaisons internationales
ça, c'est vrai.
N'ont pas vraiment de sens. Pourquoi ? Parce qu'en France, en fait...
La culture est différente.
Il y a vraiment un problème culturel. Ça, axe 1, il y a un problème culturel. Mais en plus, si vous prenez les pays nordiques, qui ont 90% de syndiqués, etc. Oui, mais Si je suis au chômage, comme en Belgique par exemple, si je suis au chômage, c'est mon organisation syndicale qui me verse le chômage. C'est-à-dire qu'ils font ce travail, il n'y a pas de souhait d'emploi, etc. Et donc on s'aperçoit que c'est pas du tout la même chose.
Le système est très différent, comme en Allemagne d'ailleurs.
En Allemagne, le système aussi est différent. Il y a des pays où ne bénéficient des accords signés au-delà du code du travail que les adhérents des organisations.
Oui, ça aide.
Ça aide. Ouais, c'est pour ça que la comparaison...
Mais ça veut aussi dire qu'en Allemagne notamment, comme vous dites, c'est que IG Metall, par exemple, c'est ce syndicat qui me vient à l'esprit, est beaucoup plus, j'allais dire, responsable que la CGT en France. Pourquoi ? Parce que quand IG Metall fait une grève, c'est une grève une fois tous les ans, ou tous les deux ans, ou tous les trois ans, et là, les patrons tremblent, entre guillemets. La CGT, elle est là tout le temps. Donc,
Non, mais vous avez raison, il y a des différences essentielles. Par exemple, l'Allemagne... moi, je suis pour qu'on augmente considérablement le nombre de représentants des salariés dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance, donc dans les grandes entreprises. En Allemagne, ils sont à parité. C'est-à-dire qu'il est normal qu'il y ait les représentants des actionnaires, ils mettent de l'argent, c'est tout à fait naturel, 50% de représentants des actionnaires, 50% de représentants des salariés dans les entreprises de plus de 3000 salariés. C'est-à-dire que ça change tout. L'actionnaire, en fait, il va vouloir un retour sur investissement rapide, et c'est normal. Le représentant des salariés, il va voir peut-être la pérennité de l'outil de travail. Et c'est un équilibre. Parce que je n'ai pas remarqué que l'industrie allemande allait plus mal que l'industrie française. Donc, dans les très grosses, c'est 50%. Dans les entreprises, de mémoire, c'est après plus de 300 salariés, c'est un tiers de représentants des salariés. Mais ça veut dire aussi une chose. C'est que s'il faut fermer un site... Parce qu'il n'est pas rentable et ça risque de mettre l'ensemble de l'entreprise sur le bord de la faillite. Les partenaires sociaux s'engagent, ils assument en France, mais ils ne veulent pas. Parce que si vous êtes en co-gestion, comme en Allemagne, ce n'est pas de l'autogestion, c'est de la co-gestion. Si vous êtes en co-gestion, alors il y a un patron, hein, la co-gestion c'est je réfléchis à l'avenir, je co-gère pour l'avenir, je construis l'avenir. Mais si vous prenez ces décisions, il faut les assumer.
Bien sûr.
Et nous, ils veulent, c'est très facile de dire j'en veux plus, je suis contre, etc. J'assume pas.
Joseph Touvenel, je rappelle que vous êtes l'ancien vice-président de la CFTC. On est avec vous. Je vais vous poser quelques questions sur la droite. Vous y avez été fort dans votre texte que vous avez publié dans le journal du dimanche.
La plus bête du monde.
Sur la droite, la plus bête du monde.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlez et Jean-François Coulon-Désart. Et en compagnie donc de Joseph Touvenel. Donc vous avez publié un point de vue dans le journal du dimanche et votre conclusion, je voulais la citer, cette droite des pupitres et des micros n'est pas la droite, elle n'est que la copie de cette bourgeoisie qui fit la Révolution française et priva les travailleurs de toute protection en 1791 par le vote de la sinistre loi Le Chapelier, cette loi dont nous parlions tout à l'heure. Non seulement cette droite est stupide, mais elle est fréquemment socialement irraisonnable au risque d'accentuer les fractures du pays. Pourquoi êtes-vous si méchant avec la droite, Joseph Touvenel?
Je ne fais qu'un constat. Je ne fais qu'un constat. Regardez l'état des lieux. Enfin, alors, je vais prendre un exemple. Nicolas Sarkozy avait eu une bonne idée. Et la bonne idée, c'était de dire on travaille, quand vous travaillez pendant 35 heures et que vous cotisez, est-ce qu'il faut des cotisations sociales?
Oui, bah oui, c'est nécessaire.
Et au-delà, la 36e heure, il n'y a plus de charges sociales, c'est-à-dire que l'entreprise, le coût du travail n'est pas plus élevé à la 35, à la 36 ou à la 37e heure, et le salarié, lui, s'il travaille plus longtemps, il gagne plus.
Ouais.
Ça, c'était intelligent, mais ils ne l'ont pas fait.
C'est une stupidité. Ça a été fait un peu et supprimé, non?
Bah, ça a été supprimé par la gauche.
C'est complètement...
Bien sûr, c'est la gauche qui a supprimé. Ouais. Ça avait été mis en place, ça.
Mais ils ne se battent pas. On ne les entend pas.
Travailler plus pour gagner plus,
quand
ça s'appelle.
Quand on nous parle des 35 heures, par exemple, ils sont là, les 35 heures. C'est quoi les 35 heures? C'est la durée légale du travail à partir de laquelle je paye en heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'en France, il n'y a pas un texte qui interdit de faire travailler un salarié au-delà de 35 heures. Ça n'existe pas. Et par contre, toute la droite se met dans la tête, c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Seulement pour l'entreprise.
C'est plus rentable.
Si je fais travailler 36 et 37 heures... Les deux heures supplémentaires, ça obère ma rentabilité. Évidemment, je ne vais pas le faire. Acte 1. Acte 2, si je n'ai pas de clients, on voit toutes les fermetures en ce moment. Le drame des fermetures.
Ah, c'est terrible.
Ça tombe comme à gravelotte. Évidemment, je ne vais pas faire travailler plus longtemps. Donc, comment remettre la France au travail?
Donc, pour vous, c'est un manque de dynamisme de l'économie française.
Absolument. Qu'on puisse travailler plus longtemps. Encore faut-il que l'entreprise ait les moyens de faire travailler plus longtemps et les contrats qui permettent de faire travailler plus longtemps.
Mais moi, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, ma feuille de paye faisait 3 lignes. Aujourd'hui, elle fait 3 pages.
C'est
assez intéressant, cette complexité qu'on nous a tissée, tressée au fil du temps.
Je vais vous donner un exemple sur notre complexité. Toutes les entreprises doivent au moins une fois tous les 4 ans écrire en recommandé accusé de réception à tous les syndicats représentatifs en France, il y en a 5, pour leur dire « nous allons organiser des élections ». C'est-à-dire que c'est un morceau de courrier qui arrive.
Oui, dans c'est les ça, avec en plus les bulletins de chacun, etc.
Avant, elles doivent nous avertir pour venir éventuellement négocier un accord, etc., etc., par recommandé accusé de réception.
Les écolos sont d'accord, parce que ça fait pas mal d'arbres coupés, ça, hein, pour envoyer.
Mais c'est pas, ça serait pas possible de faire un site internet où l'entreprise dit « j'organise des élections, on va regarder, c'est dans mon département, et j'ai des gens à présenter, j'y vais ». Non, non, lettre recommandée, accusé de réception.
Allez, je voudrais qu'on revienne sur le 1er mai et qu'on écoute David Lisnard. Alors, c'est un libéral, hein, David Lisnard, et lui, il a une position assez simple. Hein. Il dit simplement qu'on laisse les salariés libres. Ceux qui veulent travailler, travaillent, et les autres, eh ben, ils travaillent pas. On l'écoute.
Non, mais c'est très simple. Ouais. C'est-à-dire que le 1er mai reste un jour chômé. Donc férié payé, comme c'est le cas depuis 1941, je crois, je rappelle au passage. Mais en revanche, travaille qui veut. Parce que moi, j'ai, comme vous certainement, j'ai payé mes études, je bossais, j'étais toujours volontaire pour travailler les jours fériés. Et le 1er mai, j'avais le droit de travailler dans un McDonald's, mais je n'avais pas le droit de travailler dans un magasin de vêtements. J'ai eu des magasins ensuite, et j'ai eu des salariés qui voulaient travailler ce jour-là, et on les payait double, à condition donc de payer double. Ensuite, le chef d'entreprise... Soit il décide de fermer parce qu'il estime qu'il n'a pas intérêt à ouvrir en payant double, soit il ouvre avec les seuls volontaires. Et on garde donc le symbole du jour férié et on crée la liberté de travailler. C'est quand même extraordinaire, pardon, mais d'avoir des gens qui sont censés défendre les salariés des syndicats qui empêchent les salariés d'avoir du pouvoir d'achat.
C'est aussi la position de Charles Rodwell, position libérale. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ça? Rien.
Non, c'est pas simple, c'est simpliste. Sauf s'il vote une loi au Parlement disant que le contrat de travail n'est plus un contrat de subordination. Et moi, je suis pour que le contrat de travail reste un contrat de subordination. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il y a un chef, le patron, qui décide de qui vient travailler, qui ne vient pas travailler, des horaires d'ouverture, des dates de vacances. Parce que la liberté telle qu'ils la conçoivent, ça veut dire moi j'ai envie de venir et je viens, j'ai pas envie de venir... C'est une fiction, cette liberté. Premier point, c'est une fiction, parce que celui qui dit « je ne veux pas venir travailler », il verra pour ses augmentations, ses dates de vacances, etc. C'est une fiction de celui qui ne travaille pas vraiment en entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut un cadre. Et puis le commerçant, l'artisan, il a aussi besoin de jours de repos. Parce que quand on regarde un peu, on nous dit la France, il y a une natalité qui s'écroule. C'est vrai. Et tous ces enfants qui sont laissés à eux-mêmes, parce que les parents travaillent. On a besoin aussi d'organiser la société pour permettre d'avoir une vie familiale. Alors, sauf, moi je comprends. Je comprends les ultralibéraux et les marxistes, ce sont des matérialistes. C'est-à-dire que la dimension humaine, c'est produire et consommer. Oui, moi je ne suis pas un matérialiste, moi je suis un chrétien. Je pense que la dimension humaine, il y a toute une autre dimension, et que la société et le monde du travail doivent s'organiser
pour respecter cette
dimension.
Il laisse la place aux chrétiens, par exemple, ou aux autres, qui n'ont pas envie de travailler, qui ont envie de faire autre chose ce jour-là. Mais vous avez raison de dire
notre intelligence française et notre intelligence chrétienne, c'est de respecter la dimension matérielle et la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est celle qui nous permet d'avoir des temps collectif pour la vie familiale, la vie personnelle, la vie associative et la vie spirituelle. Si j'écoute la liberté, d'abord il n'y a pas la liberté, ce n'est pas vrai, ou c'est une fausse notion de la liberté. Le contrat de travail est un contrat de subordination et je pense que c'est raisonnable. Mais dire « laissons libre », ce n'est pas vrai. C'est un renoncement du politique. Ces gens-là ont toujours renoncé, ils continuent à renoncer. Cette liberté, elle n'existe pas. Eux, peut-être, ils ont le choix, parce qu'ils ont les moyens. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le choix. Et pourtant, ils ont aussi besoin d'avoir une vie familiale, une vie associative, une vie personnelle, une vie spirituelle.
Voilà, donc il faut conserver ce premier. Mais Jean-François Coulon-Désart.
Oui, mais si je vous pousse un peu dans vos retranchements, l'infirmière de bloc qui va être appelée à travailler le 1er mai, le médecin, les pompiers, les gendarmes.
Le médecin,
oui,
non. Attends,
il y a tout
alors,
un tas de...
Je vous arrête tout de suite. Oui. Ça, c'est l'excellent exemple. Évidemment, on a besoin de métiers le dimanche, voilà, les jours fériés, qui travaillent...
Moi, j'ai besoin de boulanger aussi,
pour
je suis
le
désolé.
Bien commun. Boulanger, on peut... L'artisan boulanger qui décide, moi, je ne suis pas contre. Hein. Donc, et d'ailleurs, ça se fait ce matin, dans ma petite commune de banlieue populaire. Boulanger était ouvert, et le marché aussi. Hein. Ça ne posait aucun problème à personne. Le médecin, c'est très intéressant. Regardez le principe de la liberté. Les médecins libéraux sont libres d'ouvrir quand ils veulent. Si vous me trouvez un médecin libéral qui ouvre volontairement le dimanche, vous me donnez son adresse. Oui. Lui, il a le vrai choix parce qu'il a les moyens.
Oui, mais il avait les moyens. Non, il a les moyens. Avant, il y avait. C'était organisé par commune.
Il y a la
tour de garde, etc.
C'est
donc,
pas de la liberté.
Voilà.
C'est obligatoire.
C'est oui,
pas
mais c'est eux qui se sont mis cette obligation.
C'est une obligation qui est surveillée par le préfet.
Oui, et qui date de quelle année?
J'ai pas la date. Bon. C'est pour les, que ça soit pour les. Je suis fils de médecin, petit-fils de médecin. Moi libéral, aussi. Je connais bien. Hein.
Moi aussi.
On est tous en
garde obligatoire. Voilà. Mais donc c'est pas Philippe la liberté Charlaise. De faire ou de pas faire, c'est obligatoire.
Philippe ouais. Charlès.
Je suis aussi fils de cardiologue.
Il n'y a que des fils de médecins.
Et donc simplement pour vous
rhumatologue.
C'est pour ça qu'on soigne nos auditeurs.
Mon père, avant d'être cardiologue, avait été généraliste, donc il avait été diplômé juste après la guerre. Et de fait, à cette époque-là, il y avait des tours de garde.
Il y a toujours.
Il y avait des gardes.
Comme pour les pharmacies.
Absolument.
Et c'est bien. Et c'était relativement bien organisé.
Absolument.
Je voulais
mieux
vous
que
poser
maintenant.
une autre question qui va un peu dans le sens. Est-ce que vous ne croyez pas aujourd'hui, parce que David Lisnard, que j'aime bien, même si vos arguments sont tout à fait recevables sur la part du travail, du familial et du spirituel. Est-ce que vous ne croyez pas que le code du travail demande quand même à être fortement allégé?
Comme tous les codes en France.
Oui,
est-ce que le code du commerce, le code des impôts, le code de la sécurité sociale, enfin je peux tous vous les faire, sont plus simples que le code du travail? Et je note qu'il y a une obsession sur le sol
qui est de les
complexifier. Protège le travailleur. Le code des impôts, c'est de la compétitivité. Il faut tous les simplifier. Évidemment. Ils sont tous trop complexes, évidemment.
Surtout le code dans l'environnement, qui donc, au début de l'ère Macron était de 3000 pages, aujourd'hui
si
fait 6000 pages.
Si vous aviez, on va parler du code du travail, puisqu'on parle de ça, si vous aviez deux ou trois grandes règles à conserver dans le code du travail, quelles sont-elles?
Je veux dire, comment je gagne plusieurs pages dans le cadre du travail? Je reviens à ce qui se faisait il y a encore 15 ans. Le dimanche, c'est fermer les grandes surfaces et centres commerciaux. Par contre, le commerçant, l'artisan qui veut ouvrir... Ouvrir, voilà.
Mais vous le justifiez comment ça? Parce que c'est pas très juste.
On justifie pas, on décide.
Oui, vous décidez, mais enfin...
Je justifie, un, pour cet équilibre dans la société de ce temps collectif, pour la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle. Il se trouve que j'ai fait du rugby. Eh bien, c'est mieux d'avoir le même temps de repos collectif pour mettre 15 gaillards à droite, 15 gaillards à gauche, les arbitres au milieu, de préférence des spectateurs autour. C'est ça qu'on protège. Et donc, on a besoin de ce temps collectif avec la gamme des exceptions qui nous permettent d'avoir aussi des activités. C'est ce que nous avions fait avec l'équilibre depuis le Moyen-Âge, économiquement.
Il faut séparer l'artisan de l'industriel.
Le gros artisan,
ça peut être compliqué.
Il ouvre le dimanche matin et il ouvre pas le dimanche après-midi. Et c'est sa liberté et c'est très bien. Et tout le monde... Là, en faisant ça, en disant non aux grandes surfaces, aux centres commerciaux, ça a été et les sarkozystes et les socialistes qui ont agrandi les ouvertures.
On protège le commerce d'argent.
De proximité. On protège de l'emploi, parce que vous avez dû remarquer qu'au rayon chaussures de ma grande surface, il y a zéro salarié. Par contre, mon chausseur de centre-ville, c'est un, deux ou trois emplois. Donc on protège l'emploi. On protège les territoires, parce qu'on permet à tous ces petits artisans commerçants de vivre. Et celui qui en parle le mieux, qui dit, mais ça sert à rien, c'est Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, quand on lui posait la question, est-ce que vos centres locaux, vous avez intérêt à les ouvrir le dimanche? Il expliquait, mais non, je n'ai aucun intérêt. Je vais vendre le même volume avec une journée de charge supplémentaire. J'ouvre uniquement si mon concurrent ouvre. parce qu'il me prend des parts de marché. Mais si toutes les grandes surfaces sont fermées, on s'en trouve qu'au mieux. Et il complétait en disant, et puisqu'on on va ouvrir parce que la concurrence ouvre, mais que ça nous revient plus cher puisqu'on vend toujours le même volume, eh bien il faut qu'on s'y retrouve. Comment on s'y retrouve ? En tuant le plus faible. Le plus faible, c'est l'artisan, c'est le commerçant, c'est le... C'est imparable. Et pourtant, on a les... ils ont aussi leur intérêt, hein, ces centres. Mais on avait bâti un équilibre qui a été déséquilibré. Et aujourd'hui, on pleurniche parce que les centres-villes se dépeuplent. Ben oui, c'est les conséquences de décisions politiques malsaines qui ont été prises.
Et c'est parce que là, vous me répondez simplement sur le fait de fermer ou pas des... Alors, je sais que c'est la thématique du débat d'aujourd'hui. Mais je parle d'une façon plus générale sur le code du travail. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à simplifier, par exemple en matière environnementale.
Mais non, mais on est là. Il faut déjà changer dans la Constitution le fait qu'on ait, qu'on ait mis un principe de précaution qui ne veut strictement rien dire.
C'est Chirac qui a fait ça, absolument.
C'est la droite. Hein.
C'est Chirac. Toujours, ouais.
Et vous
c'est
voyez, quand je titre la droite la plus bête du monde.
Eh ben voilà, on y est. Allez, y a-t-il trop de jours fériés en France ? Ça, c'est une question qu'on entend très souvent. On va en parler juste après.